Bonsoir, je vous remercie de m'accueillir ici ce soir. C'est vraiment très gai de voir un public aussi nombreux par rapport à Bruxelles où, en général, ce genre de thématique n'attire pas les foules. Moi, je vous propose une lecture politologique ou de sociologie politique sur la question de la représentation politique des femmes et la candidature de Michelle Bachelet en particulier. Je vais commencer par deux chiffres. En général, je n'aime pas trop les chiffres, mais là, ça s'impose. Une enquête assez récente a montré qu'au Chili, 49,3% des femmes ne se sentent pas représentées politiquement par leurs élites. Et 68% appuient le projet d'une loi de quotas de genre, donc une loi qui viserait à instaurer des quotas, des ratios hommes-femmes, au niveau des listes électorales et dans les instances directives des partis. Alors, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, il y a un problème. Du moins, il y a un problème pour certaines personnes au Chili qui ne sont pas satisfaites de cette représentation politique. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait assurer une représentation politique des femmes? Est-ce que le fait qu'il y ait des hommes au pouvoir, ça ne suffit pas? Eh bien, d'abord, je crois que c'est une question de démocratie. Pourquoi est-ce que les femmes devraient-elles être exclues des sphères dans lesquelles on prend des décisions qui vont affecter leur vie au quotidien? Il faut donc permettre que les femmes puissent exprimer leur voix dans la cité. Puis, c'est une question de justice et de droits humains. Les femmes constituent la moitié de l'humanité, mais constituent également plus de la moitié de la société chilienne, et plus de la moitié de l'électorat chilien. Donc, de nouveau, une injustice. Enfin, c'est une question de développement ou de modernisation. Pourquoi est-ce qu'on devrait se priver de compétences, de qualités, de capacités? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que les femmes sont peut-être moins capables que les hommes pour décider au niveau politique? Alors, Eduardo nous a déjà donné quelques chiffres concrets sur la représentation politique des femmes. J'ajouterais juste que, en ce qui concerne l'accès à la santé ou à l'éducation, les chiffres de l'ONU, à prendre avec plein de guillemets, vous en faites ce que vous voulez de ces indicateurs, mais montrent qu'il n'y a pas de très grande différence en termes hommes-femmes dans l'accès à l'éducation, à la santé. Par contre, quand on regarde les indicateurs par rapport au pouvoir politique, là, il y a vraiment un problème. Et on voit que la représentation aussi entre 10 et 20-22%, suivant les chambres, suivant les postes de désignation. Si vous voulez des chiffres, on peut y revenir après. Donc une première conséquence qu'on voit là, c'est que on dirait qu'il y a moins de résistance de la part d'un président, le président Lagos, à désigner des femmes ministres, aussi à mettre sous réserve. C'est pas parce qu'il a désigné des femmes que tout va bien. Je crois que tu en parleras après. On dirait qu'il y a moins de résistance au niveau de la désignation que des élections. Donc, qu'est-ce qui pose problème au niveau des élections? Est-ce que ce sont les citoyens qui ne suivent pas, donc qui ne voteraient pas pour des femmes, ou est-ce que c'est un problème de parti? Donc, des partis qui ne viseraient pas à mettre les femmes soit aux bonnes places sur les tickets électoraux, soit dans les bons districts. Et on voit en fait que les citoyens suivent tout à fait les candidatures de femmes, que une grande majorité des femmes qui se proposent, qui sont candidates, sont élues. Donc ça montre bien que ce n'est pas parce que les citoyens refuseraient de voter pour des femmes. Alors avant de voir ce qui pourrait constituer tous ces blocages, regardons un petit peu qui est Michelle Bachelet. Alors le titre de cette conférence m'avait interpellée parce que en demandant une femme à la présidence du Chili, accident ou égalité des droits enfin conquises, je me demande où est Michelle Bachelet dans ce titre. Donc ça donne un peu l'impression, même si je sais que ce n'est pas le projet initial, que on a une femme qui arriverait à ce niveau dans la course électorale, mais on se demande si finalement c'est pas à cause d'éléments extérieurs. Donc soit ce sera un accident ou un hasard, soit ce serait grâce à l'égalité, mais finalement où se trouve la personne même de Michelle Bachelet là-dedans? Ses compétences personnelles, vous les connaissez probablement. Je la citerai juste. Elle se définit comme femme, mère, citoyenne, fille de militaire, socialiste, médecin pédiatre, travailleuse de la santé et ex-ministre. Elle a en plus une connaissance de l'Europe via son exil en Allemagne et une connaissance des États-Unis via sa formation militaire là-bas. Ces compétences ont fait qu'à un moment donné, elle est parvenue à obtenir la confiance du président Lagos, qui a misé sur elle, qui l'a nommée à des ministères. Et après, cette confiance est devenue une confiance de parti. au sein de son parti et une confiance de la coalition. Ça n'a pas été facile, vous le savez, mais bon, finalement, elle a quand même eu cette confiance de la coalition. Bon, des compétences personnelles ne suffisent pas pour des élections. Il faut un petit plus, même beaucoup de plus pour y arriver. Et moi, je dirais, par rapport à ce que je vois du Chili, ce que je lis de la presse là-bas, des échos que j'ai des collègues et amis chiliennes, deux éléments me semblent importants. C'est que Bachelet représente à la fois une figure de la réconciliation et en même temps une figure de la proximité. C'est assez intéressant de voir que ces deux images sont à la fois ce qu'on lui donne, ce qu'on lui met pour la défendre, et puis en même temps ce qu'on va critiquer chez elle en disant que finalement ce n'est pas une vraie proximité, que ce n'est pas une vraie réconciliation, etc. En termes de réconciliation, mais je crois que sa vie personnelle, professionnelle, incarne véritablement le passé et le futur du Chili. D'un côté, tout ce qui touche à la période de la dictature, donc mort de son père, la disparition des proches, l'emprisonnement avec sa mère, l'exil, etc., qui sont des caractères dans lesquels une partie des Chiliens se retrouve. Et en même temps, avec la transition démocratique, un engagement pour la démocratie, une participation active dans le gouvernement, un rôle assez important, il me semble, vis-à-vis des forces armées, donc une volonté de dialogue, mais une volonté de dialogue sans l'amnistie, ce qui est quand même important de montrer que cette réconciliation, elle parvient à gérer, enfin, du moins jusqu'à présent, cette idée de dialogue, mais en même temps sans vouloir oublier ou tourner la page ou passer au-dessus, comme on l'a vu dans de nombreux pays. Donc à la fois, ne pas oublier mais ne pas vouloir prolonger ces deux camps au Chili, ça me semble une définition idéale pour caractériser la réconciliation. Et je pense que le poids de la mémoire ou des imaginaires est toujours fort important aujourd'hui, malgré ce que disent un grand nombre de Chiliens sur le terrain. Donc je crois que c'est un élément important. C'est ensuite une figure de proximité avec les citoyens, parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Chili, en Belgique ou en France, on parle de crise de la représentation. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les citoyens ne se reconnaissent plus dans les élites, sentent une distanciation très grande, mais surtout une distinction très grande, comme si les élites ne pouvaient pas comprendre leur réalité, leur situation de vie. En même temps, une autre enquête a récemment montré qu'une grande majorité de Chiliens appellent à une gestion plus maternelle, je vais mettre aussi maternelle entre guillemets, de la politique. C'est-à-dire qu'ils voudraient quelqu'un de plus proche, qui soit plus au courant des réalités de vie au quotidien. Et donc, qu'on prenne une enquête de terrain ou des théories sur la crise de la représentation, mais je crois que Michel Bachelet incarne cette figure de proximité et de dialogue avec les citoyens. Cela dit, sans tomber dans le populisme traditionnel qu'on peut observer en Amérique latine. Pourtant, c'est ce qu'on essaie, il me semble, dans la presse ou dans le débat partisan, on essaie de l'accuser de ça. Ce populisme, je n'ai pas l'impression qu'elle tombe dans l'écueil des visites de quartier dans lesquelles on distribue de la nourriture, des biens, on promet de construire une piscine, des choses comme ça. Elle fait des promesses électorales, on verra si elle est élue, si elle les remplit. Mais en attendant, je ne pense pas que sa volonté actuelle de mettre sur pied un dialogue avec la citoyenneté, avec les citoyens, corresponde à ce qu'on peut appeler du populisme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sur pied des commissions de dialogue sur les différentes thématiques de son programme avec les personnes concernées et des personnes expertes, et des personnes moins expertes, mais qui sont les premières personnes concernées par ces thématiques. Elle s'adresse également à des personnes qui ont moins facilement accès au débat politique ou public. Je pense à la jeunesse, je pense aux personnes âgées ou aux femmes. Donc je crois qu'elle propose une nouvelle façon de faire la politique, de gérer la vie en commun dans la cité, mais sans pour autant renoncer à son autorité. Donc elle entend bien jouer le rôle de première fonctionnaire de l'État. Elle ne cherche pas à essayer de transformer ça et elle ne prétend pas ne pas faire partie d'une certaine élite. Alors, est-ce que cette candidature, c'est l'égalité homme-femme enfin conquise ? Il y a des avancées, mais je ne pense pas qu'on soit dans une situation d'égalité homme-femme. Alors, certes, le mouvement des femmes dans les années 80 a joué un rôle essentiel pour créer un lien entre les femmes et la démocratie, pour légitimer leur rôle dans la modernisation du pays, dans la démocratisation du pays, et a contribué aussi à légitimer la question même de l'égalité homme-femme au sein de l'opinion publique. Certes, le CERNAM, donc le Service National des Femmes, a été créé en 91 grâce aux pressions du mouvement des femmes. Et donc le CERNAM a lancé des politiques publiques d'égalité des chances et depuis 2000 encourage fortement la participation des femmes politiques ou économiques. Le CERNAM met sur pied des formations, lance des recherches, appuie les candidatures des femmes aux élections municipales. Certes, les partis, de nouveau sous la pression des militantes féministes, certains partis ont instauré des quotas au sein de leurs instances internes. Je pense au PS, au PPD, à la démocratie chrétienne. Cela dit, il y a beau avoir écrit des sanctions sur papier, ces sanctions ne sont nullement appliquées. Donc un parti qui ne respecte pas sa propre législation interne ne sera pas puni. Et puis certes encore, je dirais, il y a un contexte international défini par l'ONU, la conférence de Pékin, la convention pour l'élimination des discriminations contre les femmes, qui font qu'on est dans cette atmosphère d'empowerment, pour le dire, de discrimination positive, d'encouragement des candidatures de femmes. Est-ce qu'on arrive pour autant à une égalité homme-femme ? Je ne le pense pas, et certainement pas sur le niveau, dans le domaine de la politique au Chili. Déjà, il me reste plus que 5 minutes, c'est atroce. Alors, les blocages, je vais juste les citer comme ça, on en rediscutera clairement. J'en repère au niveau de la culture, au niveau du cadre institutionnel et au niveau des partis. Alors, au niveau de la culture, on dit directement c'est le machisme. Non, je crois que le plus important au niveau de la culture, c'est le marianisme, c'est-à-dire cette adoration, ce culte de la femme comme étant mère, à la fois mère et à la fois vierge, qui vient de l'histoire même du Chili et de l'Amérique latine, donc la colonisation, les sociétés précolombiennes, l'évangélisation, la République, etc. Tout ça mis ensemble a fait que la femme est avant tout considérée, je dis bien la femme pour montrer que c'est une adoration, pas dans la diversité, la femme doit être mère et pilier de la famille. Et tout ça fait que c'est difficile pour les femmes de s'autonomiser, et en particulier dans la sphère politique. Au niveau institutionnel, vous le savez également, ce sont toutes les normes, toutes les lois, tout le cadre hérité de Pinochet. Le scrutin binominal, les lois électorales, le consensus, les listes fermées, etc., etc., qui font que les partis qui ne font pas partie des deux premières coalitions sont minorisés. Les outsiders, donc les nouveaux venus en politique, ont vraiment des difficultés à venir en politique, puisque on va voir où on les place, et on va plutôt placer sur les listes électorales des personnes, et en particulier des hommes qui seront élus. Ça rend difficile également le renouvellement des élites. Au niveau des partis politiques, ça c'est comme en France, comme en Belgique, c'est le plafond de verre, donc ce décalage entre le militantisme de base et puis les instances de direction. Ce sont les stéréotypes qui font qu'on considère toujours que la militance d'une femme, c'est en quelque sorte le prolongement de ses rôles domestiques. Donc la femme, dans une réunion, va quand même devoir prendre note. Si elle peut faire du café, c'est pas mal. Va être occupée à des fonctions administratives. Il y a des difficultés pour les femmes à créer des réseaux au même titre que les hommes, parce que c'est pas toujours évident le soir d'aller à des réunions ou des discussions dans des cafés ou des clubs de sport, encore moins quand ça se passe dans les vestiaires. C'est difficile également de récolter des fonds, parce que justement il n'y a pas ce réseau derrière, et puis il n'y a pas toujours les revenus. Bref, vous voyez que tout ça, on a beau dire on est dans une situation égalité homme-femme, non, je ne pense pas. Tous ces blocages sont vraiment encore à démonter. Alors si Bachelet est élu, ben moi je voudrais juste dire que ce n'est pas un chèque en blanc qu'on lui donne. Le Chili est un pays absolument fascinant pour une politologue, puisque c'est tellement complexe son système institutionnel. Si Bachelet est élu, il faudra voir comment elle va gérer la relation avec la démocratie chrétienne, enfin ou plutôt comment la démocratie chrétienne va se positionner par rapport à Rénovation nationale ou par rapport à la Concertation. Bachelet devra gérer la relation avec l'opposition au sein du Parlement et du Sénat, puisque si on n'a pas la majorité des deux tiers, etc., pas de grosses réformes envisagées. Et puis, son gros défi par rapport à la question qui nous intéresse, ce sera de réaliser la parité homme-femme, puisqu'on l'attaque énormément là-dessus aussi, en disant, déjà dans votre commando, vous n'avez pas réalisé la parité, comment espérez-vous faire ça au niveau du gouvernement ? Et ce n'est pas infondé comme remarque, puisqu'il faudra passer par les partis, par la coalition de partis. Alors je dirais, pour terminer, que l'arrivée de Bachelet à ce niveau-ci dans la course électorale, les 48 ou 49% de la population qui disent qu'ils vont l'appuyer, ce n'est pas un hasard ou un accident. Elle a des compétences et elle est parvenue à dépasser des blocages qui sont vraiment présents. Ce n'est pas une victoire de l'égalité non plus, parce qu'il y a des avancées, mais il y a quand même toujours ces fameux blocages et ces défis. C'est une figure pour moi de la réconciliation et de la proximité, et je dirais que arriver où elle est arrivée aujourd'hui, face aux pressions, face au cheminement traditionnel en politique, mais face aux attaques personnelles, la presse, etc., etc., je crois qu'elle a une force psychique largement supérieure à la plupart des candidats. Et je dirais, quoi demander de plus pour avoir une bonne présidente d'ici peu.